Tchad montre-t-il les signes d'un changement ou sommes-nous un peu toujours dans le même système?
Ben bon, je pense que rien de significatif n'avait changé hein, depuis que le jeune général Déby avait pris le pouvoir. Il y a toujours ce problème de la mauvaise gouvernance qui continue. Le problème d'insécurité persiste. L'injustice se perpétue à tous les niveaux et dans tous les secteurs d'ailleurs. Et les anciens dinosaures du régime de Déby sont toujours aux commandes des affaires. Donc là, je pense qu'à ces niveaux, on ne peut parler de rupture ou bien d'un nouveau système. Je pense que c'est la pérennité du régime de Déby père. A contrario, j'observe un écart entre ce que veulent les Tchadiens, donc le peuple tchadien, et ceux qui sont au pouvoir actuellement. Le peuple tchadien sous Déby père avait perdu toute confiance au processus démocratique, parce que souvenez-vous, Déby allait être au pouvoir jusqu'à 2033, et donc après la mort de Déby, il s'est fait renaître un espoir d'une nouvelle ère politique, hein, ce qui se traduit d'ailleurs dans l'optimisme qu'on voit. Moi, j'étais au Tchad en janvier dernier, j'ai vu l'optimisme dont ce que les Tchadiens disent, et les Tchadiens veulent rêver d'un nouveau Tchad. Donc pour moi, c'est la pérennité d'un même système qui est en place depuis trois décennies.
Alors Benjamin, quand les critiques du régime disent qu'on est un peu dans une continuation du système Déby, est-ce que vous les comprenez ou bien on peut trouver quand même des circonstances atténuantes au pouvoir, même si on est un an après le début de cette transition?
Mais difficile de trouver des circonstances atténuantes, crois-moi, ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais j'en ai vu nulle part, hein. Pour abonder dans le même sens que Valérie, écoute, on est dans la continuité. Et j'aimerais soulever un aspect parce que je suis de ceux qui sont très critiques quand même du rôle d'un chef d'État au Tchad. Je pensais que la disparition du père de celui-là devait être l'occasion d'avoir une certaine rupture avec la façon où on perçoit et la façon où exerce un chef d'État. Alors vous voyez, nous avons devant nous, et depuis un an, on a vu le personnage se construire comme un super président. C'est lui qui décide de tout et n'est responsable de rien, comme dirait un chef de parti. Alors vous voyez très bien que nous ne sommes pas dans le changement. On le voit tantôt faire des tournées, promettre par-ci, par-là des choses. Et les Tchadiens, dans leur grand désespoir, font toujours appel à lui, les hautes autorités, ceux qui dirigent le Tchad. Mais tout ça, c'est pour dire que le président est la même chose que ce qui a fui son père. Il fait la même chose. Il n'y a pas de changement. J'aimerais bien qu'il y ait un changement, mais il n'en a pas. Ne serait-ce que là-dessus, il faut être très, 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 très. Regardons. Non, il n'y a pas de changement. Il n'y a aucune circonstance atténuante.
Oui, alors Tim, le dialogue de Doha avec les groupes, disons, politico-militaires progresse lentement et avec certains même qui ont quitté la table des négociations. À N'Djamena aussi, on note une certaine impatience avec des groupes comme le Wakitama. Est-ce que nous sommes dans une impasse ici ou alors qu'on a déjà bouclé une année de transition?
Abdourahmane, il faut dire que ce dialogue, ce pré-dialogue de Doha avec les groupes armés a été organisé dans une grande confusion. On a même l'impression d'une improvisation puisque c'est arrivé sur place que les groupes armés ont commencé à constituer des groupes de travail. Avant cela, on n'était pas sûr du rôle du Qatar. Le Qatar, les autorités qataries avaient dans leur esprit offert leurs bons offices, offert les moyens matériels de tenir ce forum. Mais ils se retrouvent qu'on leur demande d'être médiatrice dans ce processus. Donc il y a eu une grande confusion et aujourd'hui, ce dialogue du Qatar fait du surplace. Au niveau du N'Djamena, la date du 10 mai approche pour le dialogue national inclusif. Mais on ne sait toujours pas qui va participer, quels sont les thèmes qui seront débattus, qui sont les groupes qui vont être invités à ce forum. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est dans une impasse, Abdourahmane.
Et justement, Valérie, on s'approche, comme Timothée le disait, de la date du 10 mai prévue pour le lancement du dialogue national. La conclusion d'un accord avec les groupes politico-militaires doit-elle être un préalable à ce dialogue national pour vous?
Oui, ben je doute très fort de l'organisation du dialogue national le 10 mai prochain. Nous sommes en train de parler de 3 semaines. Mais moi, je pense qu'au-delà de tout ça, pour qu'il soit une réussite, je pense que le dialogue national doit impérativement être inclusif. Par conséquent, les groupes politico-militaires, les organisations de la société civile et les partis de l'opposition politique doivent y participer. Le parti des transformateurs, par exemple, au Tchad, qui est actuellement le parti de l'opposition le plus crédible, hein, est capable de gagner dans des élections démocratiques, ne sont pas actuellement en pré-dialogue avec le CNT, alors qu'ils ont des exigences, des propositions qui sont concrètes, mesurables et réalistes, pouvant conduire le Tchad d'une transition politique actuelle à une transition démocratique. J'étais à N'Djamena, comme je l'avais dit, il y a quelques mois, et j'étais témoin d'un rassemblement organisé par ce parti-là le 8 janvier, et qui a réuni, je dirais, plus de 60 000 personnes au stade Mahamatouya. Donc on ne peut pas organiser un sérieux dialogue sans ce parti-là, par exemple, ou bien tous les autres composants de la société
civile. Et pourquoi les transformateurs ne veulent pas participer à ce processus?
Moi, je pense qu'ils sont très populaires. Ils ont des exigences, hein, comme je l'ai dit, comme ils l'ont exigé. Ils demandent que la charte soit très claire, qu'ils mentionnent, voilà, en écrit, par exemple, qu'ils ne vont pas participer aux élections futures. Mais cela tergiverse toujours. Le CNT hésite toujours de clairement mentionner cela, leur intention. Donc c'est aussi ça, mais je pense qu'ils sont une composante très importante qui doit nécessairement faire partie de ce dialogue.
Et Benjamin, comment se déroule justement ce processus de dialogue avec la classe politique et la société civile, y compris la diaspora?
Oui, mais à y voir clair, en fait, c'est un dialogue de dupes. J'appelle ça un dialogue de dupes parce que le PCMT, donc le CMT a son agenda. La question, ce n'est plus de discuter, hein, parce qu'on est en transition et la discussion devait normalement porter beaucoup plus sur la transition. Comment on mène cette transition et comment cette transition va déboucher sur des institutions définitives, pérennes, etc. pour le Tchad.
C'est peut-être l'objectif du dialogue inclusif du 10 mai.
Oui, en fait, c'était ça. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, beaucoup d'entre nous avaient cru à ce dialogue-là. Mais très vite, on a compris que tout cela a été vidé de son sens. Et aujourd'hui, l'agenda de CMT, c'est de rentrer. Il n'y a pas de problème, rentrez, et puis la structure est là, rentrez, et puis vous allez travailler, mais il n'est plus question de changer quoi que ce soit. Le parti, comme les transformateurs, comme disait mon collègue Valérie, avait posé le vrai problème. Les exigences aujourd'hui du dialogue devaient être comment est-ce que cette transition devait être menée pour déboucher quelque part sur des élections libres, et les acteurs aujourd'hui, est-ce que ces acteurs veulent être juges et partis? C'est le vrai problème qui a été posé sur la table par ces partis-là. Et vous voyez très bien que là-dessus, il n'y a aucune réponse. Que ce soit au niveau de la diaspora, nous qui avons contribué justement à vouloir amener plus loin ces débats, et amener plus loin le dialogue national inclusif, évidemment, on a été très déçus. Parce que ce n'est pas véritablement l'objectif du Conseil militaire de transition. Et vous avez vu l'exemple de Douala, d'ailleurs, ça illustre très bien. On va vers l'échec, je crois vous l'avoir dit ici, que je n'y crois pas beaucoup, et aujourd'hui les choses sont en train de nous donner raison.
Et Timothée, comment est-ce que le régime peut-il s'y prendre avec une cinquantaine de groupes armés à Doha, alors que l'attendent aussi tous ces partis politiques et organisations de la société civile qui, eux, ont choisi de s'opposer pacifiquement? Est-ce que vous pensez qu'il y a un jeu d'équilibre à faire pour ce pouvoir entre, disons, les groupes armés qui, quand même, ont les armes, et, disons, tous ces mouvements pacifiques qui veulent un changement, mais sans prendre les armes?
Mais Abdourahman, il faut dire que pour le régime, l'essentiel, c'est de conserver le pouvoir, le dialogue et tout le reste. C'est un peu comme dans une course cycliste, un pic qu'il faut franchir. Mais il faut absolument tout faire pour conserver le pouvoir. Il faut noter que Ça fait un an que le président Idriss Déby est mort au front. À ce jour, il n'y a pas eu un rapport officiel sur les circonstances de sa mort. Ça montre bien que ce n'est pas du tout la priorité.
Officiellement, on dit qu'il est mort au front.
Voilà, mais en principe, dans un pays, le chef de l'État meurt, il y a quand même un rapport qui est publié pour que tout le monde sache ce qui s'est passé. À ce jour, on n'a pas un tel rapport. Et puis, bon, on l'a vu aussi, le choix du comité militaire de transition de porter à sa tête le fils du défunt montre aussi qu'on s'inscrit beaucoup plus dans l'optique de la continuité que de toute autre chose. Donc, le dialogue, dans ce cas-là, c'est juste une étape qu'on va franchir et puis on va continuer.
Alors, on va lire quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Archiduc Théodore est un Ndjamena. Il nous dit que l'ancien président Idriss Déby Itno a laissé un héritage pour son clan et ses proches dans un Tchad meurtri par l'inégalité et l'injustice à tous les niveaux et où la richesse naturelle côtoie la pauvreté fabriquée. Le règne de son fils successeur n'est qu'une continuité. Salem Ahmad, toujours en Ndjamena, nous dit « La population est confrontée à de graves et multiples difficultés. La corruption et la malgouvernance de l'administration tchadienne sont devenues la norme. » Et enfin, Rex Tchemini est à Kinshasa. Lui, il nous dit que Mamad Déby doit continuer la lutte laissée par son père, mais pas de la même manière. Il doit chercher à créer un dialogue avec les rebelles en vue de ramener la paix dans le pays. Voilà, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. C'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Retrouvé pour la seconde partie de Washington Forum. Lors d'une allocution mardi, le chef du conseil militaire de transition, le général Mamad Déby, a indiqué que la prise du pouvoir par les militaires au Tchad après la mort de son père a permis d'éviter un vide institutionnel. Pour lui, la transition au Tchad continue résolument son chemin. On suit un extrait de son discours.
Comme annoncé précédemment, les travaux du dialogue national inclusif commenceront le 10 mai 2022 à Ndjamena. C'est un rendez-vous crucial à ne pas manquer, à l'issue duquel notre cher et beau pays va se doter des institutions pérennes répondant aux aspirations profondes et légitimes du peuple tchadien souverain. Prenons la pleine mesure de cette ultime opportunité que nous offre aujourd'hui l'histoire pour nous retrouver autour d'une table pour discuter ensemble, librement, sereinement et souverainement de l'avenir de notre cher et beau pays.
Voilà donc un extrait du discours du président Déby. Et je rappelle nos invités pour ce Washington Forum à Québec, Benjamin Mobé Miletti, membre de la diaspora tchadienne au Canada. À Washington, Valérie Nadjibé, chargée de programme pour l'Afrique au National Endowment for Democracy, NED. Et ici en studio avec moi, Timothée Donangmaï, chef du service francophone de la Voix de l'Amérique. Alors Tim, justement, on vient de voir un extrait du discours du président Mamad Déby. Il parle de nécessité, en fait, et pour éviter, dit-il, un vide constitutionnel ou institutionnel. Comment est-ce que vous réagissez à son discours?
Bon, ben, il maintient que le dialogue se tiendra le 10 mai, mais sur le terrain, on ne voit pas trop qu'est-ce qui le prouve, quels sont les préparatifs qui se font. Et puis, concernant le vide institutionnel, on a aussi vu comment les choses se sont passées. Et l'ancien président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, qui dirige maintenant le Parlement de transition, aurait décliné l'offre de succéder au président de la République, comme le prévoit la Constitution, parce qu'il aurait des problèmes de santé et tout. Mais tout cela s'est passé de façon verbale. À ce jour, on n'a pas vu des échanges de lettres prouvant que tout cela s'est passé ainsi. Donc, les choses se sont faites de façon informelle et je pense que ça va continuer. Et le 10 mai, c'est bientôt, on verra bien si ce dialogue se tient.
Mmh. Alors, Valérie, est-ce que vous avez le sentiment que la communauté internationale joue son rôle en aidant le Tchad à s'engager dans la voie d'élections libres? Cet argument, en fait, de vide institutionnel est aussi repris par certains. Comment est-ce que vous voyez un peu le rôle de la communauté internationale?
Moi, je pense que pas très assez. Hein. Je pense que la communauté internationale a déjà raté ses pas dès le début de la transition politique au Tchad en cautionnant ce coup constitutionnel ayant permis la transmission du pouvoir du père au fils. Vous savez, l'Occident considérait Déby Père hein, comme un homme fort, incontournable dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Et par conséquent, la prise de pouvoir de son fils était considérée hein, comme une assurance logique de poursuivre cette lutte-là. Ah, il faut se souvenir que le président français, Emmanuel Macron, était à N'Djamena, pleurait la mort du président Déby et même bénir cette transmission, que je dirais, dynastique du pouvoir. Et aussi avec des institutions comme l'Union africaine, on a vu qu'elles ont adopté une attitude sélective hein, de deux poids, deux mesures au regard de la transition politique au Tchad comparativement à celle des autres pays dans le Sahel. Donc moi, je pense que la communauté internationale doit soutenir le peuple tchadien dans sa quête d'une transition démocratique en assurant l'organisation d'un vrai dialogue national qui est inclusif et aussi en créant un environnement propice pour garantir les élections libres et transparentes à la sortie de cette transition politique.
Benjamin, je vous pose la même question. Comment appréciez-vous le rôle des partenaires internationaux du Tchad dans la gestion de la transition?
Oui, et cette communauté fait ce qu'on dit en bon français le damage control, parce qu'on les a vus au début pour avoir béni la succession dynastique du pouvoir au Tchad. Je crois qu'aujourd'hui se trouve dans une situation assez compliquée. Ce que les Tchadiens attendent, mais de toute façon, la communauté internationale ne remplacera pas l'effort des Tchadiens eux-mêmes. Mais s'il y a quelque chose qu'ils devraient faire, nous attendons qu'ils aient une position très équitable et qu'ils le disent clairement. Est-ce que ceux qui sont aujourd'hui sur la transition vont être encore les acteurs demain? Et est-ce qu'ils vont se présenter aux élections, par exemple? Ce sont des questions cruciales qu'ils doivent se prononcer clairement dessus, et également sur des questions quand même de justice sociale et de la liberté pour les partis politiques d'exercer clairement. Voici autant de questions que les Tchadiens attendent de cette communauté internationale. Parce que franchement, il y a deux poids, deux mesures. Hein. Vous voyez ce qui se passe dans d'autres pays et ce qui se passe au Tchad. On se demande, il y a un double standard qui sidère de plus en plus, pas seulement au Tchad, mais dans l'ensemble de l'Afrique, francophone surtout. Alors, voyez-vous, moi, je crois que... Et là, pour ne pas les nommer, il y a l'Union africaine et la France, et disons, on peut peut-être pas, c'est pas la France et l'Union africaine pour citer en ordre d'importance. Alors, nous attendons, nous pensons que franchement, il y a un problème,
Justement, Tim, est-ce que ce n'est pas l'argument sécuritaire selon lequel le Tchad est un maillon essentiel dans la stabilisation de la région, qui est un peu un facteur déterminant dans l'attitude de la communauté internationale? C'est une attitude que vous comprenez pour des raisons sécuritaires?
C'est possible, c'est l'argument qu'avance la communauté internationale pour expliquer son soutien au régime du président Idriss Déby et maintenant à celui de son fils. Mais le fait est que on ne peut pas assurer la sécurité dans l'Afrique et ne pas avoir dans son pays un système démocratique crédible, stable, qui assure le bien-être de tout le monde. Et si l'on voit dans l'histoire du Tchad, en dehors de la lutte contre la Libye et de la lutte contre Boko Haram dans la région du lac, la plupart du temps, ce sont les Tchadiens qui s'affrontent entre eux. Et la plupart du temps, c'est des tenants du régime, comme les frères Erdimi, qui sont partis en rébellion et qui reviennent pour conquérir le pouvoir, qui découvrent les vertus de la démocratie qu'une fois, quand ils sont sortis du Tchad, alors que quand ils étaient sur place, ils étaient tout à fait à l'aise dans ce système-là. Donc, il faut que la communauté internationale revoie sa copie et pense à aider le Tchad à mettre en place des institutions viables, crédibles, qui vont mener à des élections démocratiques.
Et on a peut-être le temps rapidement d'aborder l'aspect développement. Hein. Les tensions politiques et sécuritaires semblent un peu reléguer au second plan le débat sur ces questions de développement et la Banque mondiale qui estime que 42% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Quelle place, cette question du développement devrait occuper dans le prochain débat inclusif du 10 mai s'il a lieu?
Abdourahmane, une place centrale dans ce dialogue.
On ne parle pas que d'élection.
Oui, voilà, une place centrale dans ce dialogue parce que les Tchadiens aujourd'hui vivent dans une situation indescriptible. C'est même par miracle que les gens s'en sortent. Beaucoup de gens souffrent et ils n'ont pas de travail. Ils ont beaucoup de mal à s'en sortir. Donc la question du développement doit occuper une place centrale dans ce dialogue.
Alors Valérie, dans ces tiraillements politiques, disons avec les rébellions et tout, on n'est pas en train d'oublier un peu la question du développement?
Justement, et moi je pense qu'il y a un lien étroit entre le développement et la sécurité. Ces deux secteurs ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Donc, cependant, pour ce qui est du Tchad, et du Sahel en général, je pense que nous avons malheureusement constaté les 15 dernières années que la communauté internationale, hein, pour rester toujours là, accordait beaucoup plus d'intérêt à la thématique de la sécurité qu'au développement ou bien encore au renforcement des valeurs et institutions démocratiques. Donc à mon humble avis, hein, moi je pense que si 10% des milliards de dollars d'assistance sécuritaire au Tchad, par exemple, étaient injectés dans les initiatives de développement. Je pense que le Tchad serait ou se trouverait dans un autre contexte actuellement. À travers le président Déby Père, moi je pense que la communauté internationale doit tirer de leçons de son assistance militaire et sécuritaire aux dictateurs, hein, de l'Afrique subsaharienne d'ailleurs, parce que c'est une politique qui n'a jamais prouvé une réussite. Donc, moi, je pense que oui, la question du développement est essentielle.
Oui, peut-être 20 secondes, le temps de donner la parole à Benjamin. On dit quand même qu'il ne peut pas y avoir de développement sans sécurité. Si on peut développer ça en 10 secondes. Benjamin.
Ah, ok, ben écoutez. Oui, ben en fait, je dirais que les acteurs de la transition sont ailleurs, hein, ils sont occupés ailleurs. Les questions de développement ne les concernent pas, me semble-t-il. Hein. Voyez-vous, pour les questions aussi, une question aussi cruciale comme l'électricité.
Malheureusement, on va s'arrêter là.
Faire juste sa compassion.
Un débat à continuer, c'est la fin de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires et sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Un grand merci également à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.